Chers amis, à mon tour de vous dire bonjour et de souhaiter à tous nos amis qui sont venus de si loin la bienvenue à Janville. Vous savez, c'est très émouvant de voir une salle aussi grande et complètement remplie par des amis. C'est très émouvant. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Prenons cette rencontre comme une rencontre de fête. Et ce caractère festif, nous le devons au Seigneur. C'est lui qui nous a donné à tous, ici présents, ce même ADN. Cet ADN qui n'est recensé par aucun laboratoire d'analyse et qui est pourtant si profond. Nous sommes des enfants de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de la grâce de Dieu qui nous a permis d'avoir ce caractère commun et qui a donné à chacune et chacun d'entre nous qui sommes ici présents le désir de nous entretenir ensemble à la lumière de la parole et dans le secours de l'Esprit Saint, de nous entretenir de ces questions de la famille. Alors, bienvenue et joyeuse fête. Nous sommes ici, effectivement, dans un château qui nous reçoit. C'est depuis 1952 le siège national des scouts et guides de France. Il y a un château tous les 10 kilomètres dans cette région. Je l'ai dit à plusieurs, c'est une des régions agricoles les plus riches de France, avec une féodalité qui avait déjà développé sur cette terre grasse, riche, lourde, un savoir-faire hors du commun. Et ce château nous accueille par conséquent dans un site avec un parc magnifique. Ce matin, c'est encore plus beau que ça ne l'était les semaines précédentes avec cette brume. Alors, la beauté du site ne gâche rien à la fête, au contraire. Et nous sommes reconnaissants encore pour ce beau sujet, le sujet de la famille. Ce sujet s'est imposé de façon pratiquement consensuelle et facile en quelques jours dans la région parisienne. Les choses sont allées comme quand le Seigneur dirige les choses, comme quand l'Esprit Saint conduit les événements, de téléphone en téléphone, de contact en contact. Eh bien, nous avons spontanément pensé que ce sujet était non seulement important, non seulement beau, mais en plus urgent. Urgence de traiter cette question pour rappeler un certain nombre de préceptes fondamentaux, de principes de base que nous donne la parole de Dieu pour notre bien. Nous disons aux jeunes que le Seigneur ne leur donne pas des règles pour les entraver, pour leur prendre leur liberté. Au contraire, nous savons, nous qui avons été atteints par l'âge et les cheveux blancs, que la vraie liberté, c'est précisément de nous donner entièrement au Seigneur, de suivre ce qu'il nous dit dans sa précieuse parole. Alors, c'est une fête où nous allons célébrer la liberté de vivre heureux et béni en famille. Maintenant, Philippe a bien eu raison tout à l'heure de dire que nous devons résolument orienter nos conversations, nos échanges vers ces deux aspects que sont le caractère réaliste et le caractère actuel. Dans quel monde vivons-nous, chers amis? Eh bien, il n'est pas difficile de faire le point. Nous vivons dans un monde qui, bien sûr, a toujours été méchant, bien sûr, a toujours porté en lui-même ses marques indélébiles du péché. Mais ce monde, aujourd'hui, jouit de moyens médiatiques de communication qui sont tellement amplifiés que tout devient plus grand, plus fort, plus rapide. Et nous voyons aujourd'hui l'évolution dans les mœurs qui va beaucoup plus promptement qu'il y a seulement une trentaine ou une quarantaine d'années. Alors ce sujet s'est imposé. Soyons réalistes, soyons actuels, plantons-nous dans notre Occident du 21e siècle, voyons ce qu'est le quotidien de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, puisque nous sommes quelques-uns peut-être ici au moins concernés, n'est-ce pas? Et voilà, alors maintenant, nous devons aussi savoir que Philippe l'a dit tout à l'heure, je le répète parce que c'est important, ne soyons pas normatifs, n'essayons pas d'établir ici une règle des lignes de conduite en disant, voilà, on a dit telle chose à Janville 2008 et il faut faire ainsi. Non, chers amis, nous sommes à l'écoute les uns des autres. Il y a dans cette salle beaucoup de souffrance dans les familles, beaucoup, beaucoup. Le Seigneur ne le sait-il pas? Alors si le Seigneur ne le savait pas, nous perdrions notre temps. Mais le Seigneur sait qu'il y a ici beaucoup de souffrance dans les familles. Et nous pourrions presque ajouter, sans devoir trop nous tromper, qu'il n'y a pas une famille qui ne soit touchée par des souffrances plus ou moins grandes, plus ou moins douloureuses. Le ministère de la souffrance, c'est un mot que j'utilise un peu pour la circonstance, nous nous en entretenions avec Eda tout à l'heure, Eda Kono. Il faut relire les premières et deuxièmes épîtres de Pierre pour comprendre que cette souffrance fait partie de notre formation pour la gloire de Dieu. Mais la souffrance est là, et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des masochistes, il veut qu'aussi nous cherchions des issues. Quand nous avons une pression, il faut essayer de se libérer, c'est non seulement vital, mais en plus c'est légitime. Alors voilà, nous avons à tenir compte de ces caractères réalistes, actuels, la situation est là, ne soyons pas normatifs, soyons à l'écoute du Seigneur, demandons instamment au Seigneur de nous diriger par son esprit et de faire en sorte que, eh bien, nous nous écoutions l'un et l'autre avec humilité, avec attention, avec amour. Ceci dit, maintenant, nous disons quelques mots simplement de ce sujet. Ce sujet, l'Église, est un très vaste et très beau sujet. Il nous concerne tous. Il ne se limite pas à la relation parent-enfant. C'est un sujet qui concerne, pour reprendre une expression du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens, c'est un sujet qui concerne les gens de la maison de Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Nous sommes tous ici des gens de la maison de Dieu. Dieu a une maison. Déjà, dans l'ancienne économie, Dieu considérait Israël comme sa famille. Ésaïe nous donne à plusieurs reprises cette image de la famille. Dieu considère ce peuple comme son épouse. Ésaïe 50 donne de très belles expressions à ce sujet. Nous pouvons les relire avec profit. Nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et alors, le Seigneur est au-dessus. Nous sommes sur la terre encore, en attendant de jouir de ces relations familiales extraordinaires qui nous attendent quand nous serons passés de l'autre côté, chers amis. Alors, voilà. Voilà, la famille de Dieu, elle est là. Quel beau sujet. Et cette unité, elle est réelle, elle ne se limite pas, bien sûr, à la relation parent-enfant. Il y a dans nos 10 ateliers suffisamment de rubriques pour que vous compreniez que nous entendons aborder ce sujet de manière très vaste. Nous n'avons pas hésité à introduire des réalités comme celle de la solitude, comme celle de la séparation, comme celle de la séparation dans le mariage, du divorce, du remariage. Pourquoi nous cacherions-nous, chers amis, derrière notre petit doigt? Les réalités sont là. La société dans laquelle nous vivons nous impose de voir les choses avec sérénité, mais aussi avec réalisme. Et ces 10 ateliers, je crois, couvrent une partie de ce vaste sujet. Maintenant, cette famille qui est, selon le Seigneur, puisque c'est une institution divine, du premier chapitre de la Genèse jusqu'au chapitre 21 de l'Apocalypse, il est question de relations de famille. Francis Heldin me disait l'autre jour au téléphone que les catholiques appellent la famille la petite église. J'aime bien cette expression, parce qu'elle correspond bien à cette nébuleuse que nous constituons. C'est une nébuleuse, la famille. Il y a les célibataires, il y a les veufs, il y a les veuves, il y a les enfants, il y a tout ce qui gravite autour de ce que Dieu a voulu constituer quand il a appelé les hommes à vivre en famille. Et il ajoute encore, notre même Seigneur, qu'il ne fera pas habiter seul celui qu'il veut voir vivre en famille. Alors, confions-nous à celui ainsi qui nous a donné de nous entretenir quelques heures de ce si beau sujet. Mais vous comprenez bien que maintenant nous entrons dans une deuxième rubrique. Nous comprenons bien que ce sujet, cette réalité de la famille, est insupportable, insupportable à l'adversaire. Satan a toujours, depuis sa chute, voulu diviser ce que Dieu a uni. Et il a toujours voulu unir ce que Dieu a divisé. C'est une formule qui est très forte et qui est très juste. Alors, Satan n'aime pas la famille. Il est la famille. Et il va développer tous ses efforts, il va déployer tous les moyens dont il dispose pour porter tort à la famille. Je lisais il y a quelques semaines le récit vrai et récent d'un homme qui était dans un avion, un pasteur, et qui avait un voisin de siège qui semblait être occupé à la prière. Et ce passager, pasteur, aurait voulu entretenir juste quelques mots d'amabilité avec son voisin, mais voyant qu'il priait, il n'a pas voulu le déranger. Puis quand cet autre voisin a cessé cette position de recueillement, notre pasteur ami lui a dit « Bonjour monsieur, j'ai vu que vous étiez, semble-t-il, occupé à la prière. » « Ah oui, tout à fait. Mais c'est bien de se retrouver, n'est-ce pas, entre un chrétien ?» Alors la tête du voisin s'est allongée et lui dit « Monsieur, sachez que je priais, mais que je priais Satan. Et je prie tous les jours Satan, longuement, avec ferveur. Et quels étaient les motifs de votre prière, monsieur, aujourd'hui ? Monsieur, ma prière aujourd'hui est une prière instante à mon maître pour la destruction des couples chrétiens. Savez-vous, chers amis, qu'il y a chaque jour des gens qui jeûnent, qui prient pour la destruction des couples chrétiens, pour la destruction de la famille ? Alors, ce n'est pas une fatalité, mais c'est pour nous un appel pressant à être vigilants et à nous défendre, parce que notre maître est plus puissant que celui qui agissait dans le cœur de cet homme qui priait Satan, nous le savons. Cependant, la réalité est là. Alors Satan est la famille. Comment va-t-il procéder ? Il va s'attaquer aux éléments les plus faibles. Dans le livre de l'Exode, nous voyons Satan s'attaquer aux enfants. Allez adorer, si vous voulez, puisque je ne peux pas faire autrement, n'est-ce pas ? Allez adorer dans le désert, mais laissez donc, entre autres, vos petits-enfants. Laissez vos petits-enfants. Alors, chers amis, comme c'est important que nous nous rappelions que les parents doivent emporter leurs petits-enfants avec eux dans ce désert où il y a tant de bénédictions. Ils doivent les amener avec eux. Nous avons, en région parisienne, vu un père de famille qui était un chrétien avoir dit pendant 15 ans « Oh, je ne dis rien à mes enfants, je ne les envoie pas à l'école du dimanche, ils choisiront eux-mêmes, je ne peux pas les influencer. » Eh bien aujourd'hui, chers amis, 4 enfants, 4 incrédules et pratiquement des blasphémateurs. Voilà le résultat. Voilà le fait d'avoir laissé ses enfants entre les griffes de Pharaon. Chers amis, c'est important tout ça. C'est important. En introduction, ça vaut la peine d'être dit. Alors, Satan est la famille. Il va s'attaquer aux éléments faibles, mais il est acharné. Il ne relâche pas ses efforts. Il sait qu'il a peu de temps. Il veut détruire ce qui lui est insupportable. Dans le métro, avant-hier, j'étais harponné par une affiche multipliée à des centaines d'exemplaires sur toute la ligne de métro. C'était au métro Opéra. C'est bientôt la fête d'Halloween. Disneyland présente une série d'affiches avec des citrouilles, sorcières et compagnie. On connaît le décor. Fort bien faites, d'ailleurs, au plan artistique, ces affiches. Le titre était le suivant. « Comme c'est charmant d'être méchant. » Comme c'est tentant d'être méchant. Vous rendez-vous compte de cette incitation insupportable, ne serait-ce qu'au plan moral, que porte ce type d'affiche et de démarche publicitaire. Et ça marche, et ça marche. Un peu d'Halloween, un peu de jeux violents qui sont élaborés par de véritables satanistes au plan des jeux vidéo. Un peu, beaucoup, ce que vivent encore nos enfants sur les bancs de leurs écoles, de leurs collèges, lycées et universités, eh bien tout ça, chers amis, constitue une pression presque insupportable sur le dos de nos enfants. Je dis presque parce qu'elle est surmontable quand même. Elle est surmontable si nous nous revêtons de cette armure complète de Dieu et dont nous parle l'Épître aux Éphésiens, et si nous sommes, nous parents, attentifs pour protéger nos enfants par la prière et la supplication. La prière du juste peut beaucoup. Ne l'ignorons jamais lorsque nous prions. Et puis, chers amis, je pose une question grave, importante, mais je la pose maintenant régulièrement, à chaque fois que j'ai une occasion de m'exprimer. Que faisons-nous de nos réunions de prière hebdomadaires ? Que faisons-nous de nos réunions de prière hebdomadaires ? Nous savons que dans les pays où la foi vole, il y a des réunions de prière quotidiennes. Et il y a des réunions de prière dans certains pays, dans des tentes comme celle-ci, où il y a 1000 places, et les 1000 places sont occupées. Un service de prière de 6 à 7, un autre de 7 à 8, et un autre de 8 à 9. Que faisons-nous de nos réunions de prière, chers amis ? Alors je pose la question à chacun de donner la réponse humblement devant le Seigneur. Nos armes sont puissantes pour combattre, mais nos armes sont d'abord la prière. Alors, il ne s'agit pas non plus de noircir le tableau. Il y a aussi de grandes bénédictions. Et c'est par là peut-être que je terminerai. Nous avons à mener une vie de victoire. Le Seigneur nous donne la possibilité de voir cette Église comme une sphère de bénédiction intense. Le Seigneur veut bénir, c'est son bonheur de nous bénir, c'est son plaisir, nous dit la parole, de nous bénir. Alors, soyons comme Jabez, n'est-ce pas? Demandons beaucoup, soyons comme Aksa, qui demandait beaucoup aussi, et elle a eu. Chers amis, le Seigneur nous invite, pour reprendre cette expression de Jean 10, à avoir une vie avec lui, et une vie qui soit abondante. Et nous sommes là, aujourd'hui, pour nous entretenir d'abondance, de joie, de paix, dans les ressources de l'Esprit-Saint, et dans la présence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.